Guillaume, on repart là sur une semaine en mode florilège.
Ah, ouais, j'adore ça.
Donc, ça veut dire.
Ça veut dire qu'on se la coule douce pendant une semaine. Mojito en terrasse et on en scoop à une.
Ah non. Ça veut dire qu'on sélectionne le meilleur de l'émission.
Ah ouais, bah ça c'est rapide ça. Ouais,
deux invités par
jour. Bah oui, okay.
Et on commence l'émission par une nouvelle conférence de rédaction. Vous voyez.
Mais...
Il n'y a pas de mai.
Hein. Bah, pourtant, il arrive bientôt.
Hein, quoi ça?
Bah, mai. Que... Le mois de mai.
Le mois de mai.
Il n'y a pas de mai. Et moi, je dis pour nous,
c'est bien.
Ok, alors tu vois, ça, typiquement, c'est le genre de vanne que tu ne mettras pas dans les sketchs.
Ouais, c'est pas marrant.
Alors, on termine chaque jour avec une chanson de Frédéric Fromet.
Ouais, alors, est-ce qu'on doit vraiment imposer ça aux gens?
Ah, bah, c'est comme ça. Voilà. Ah, puis, bon, Alex et moi, on emballe le tout pour que ça fasse une émission un petit peu préparée, comme ça.
Bon, je m'y mets alors.
Voilà. Pour la première, t'en fais pas parce que j'ai déjà la chanson.
Ah bon? Je m'occupe des invités alors.
Ouais. Okay. Ce sera Baptiste Le Caplin et Checky Carillo.
Alors on n'a rien à décider quoi.
Enfin ça ne change pas du reste de l'année.
Alors on peut aller se la couler douce en terrasse en buvant des mojitos.
Oui,
et hop là.
Oui, en fait.
Vive les florilèges.
Allez.
Je voulais que vous ayez conscience de ce que ça représente comme travail.
Oui, Charline, bien sûr.
C'est pas des vacances, ok?
Oui, tu ne gaspilles pas l'argent du service public.
Voilà.
Le contribuable français t'est reconnaissant.
Voilà.
Donc j'espère bien que tout ce que je fais pour lui.
Oui.
Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Prenez place dans l'open space pour une heure de disruption avec deux visiteurs. D'abord, Baptiste Le Caplin, l'humoriste qu'on voit régulièrement au cinéma, a donné son avis sur les fake news et sur la proposition du gouvernement de créer une loi pour les combattre. Et puis on a vu avec lui à quel point il était difficile de rompre les liens numériques avec son ex. C'est là qu'entre en scène Checky Carillo pour nous parler du niveau des petits français en mathématiques. Et puis il a réussi, figurez-vous, à élever le débat sur le dossier à la con du moment, l'héritage de Johnny. Ah. Un moment que je vous conseille de ne pas rater, surtout que juste après, Checky Carillo jouera le rôle de Manuel Valls dans un sketch. Et dès qu'on dit Manuel Valls, c'est déjà rigolo.
C'est vrai.
Et voici celui qui annonce chaque jour le nom d'Errant Forquès. Bonjour Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Moi j'aime bien les florilèges parce que je peux vous proposer ce que j'ai de mieux dans mon petit panier pique-nique pour l'après-midi. J'ai du Djoubaka qui nous parlera de Boubacar Traoré. C'est le Johnny du Mali. Voilà, je pense que si Djoubaka était là, il me taperait sur la tête, mais en gros c'est ça, c'est la légende. Guillaume Meurice parlera fake news. Grosse journée fake news. Juliette Arnaud, un roman américain dont elle avait aimé le titre, À Malin, Malin et demi. Et puis on terminera toute cette semaine par un Frédéric Fromet. Et aujourd'hui, il chantera le clash entre deux grandes stars de la chanson française, Benjamin Biolay et Grégoire.
Allez, c'est parti pour le show. Ambiance bande de jeunes avec Baptiste Le Caplin.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Baptiste Le Caplin.
Merci de me recevoir. Quelle ambiance, ça sent la vraie bonne ambiance d'équipe. Mais vraiment,
c'est fin. Hein,
moi,
c'est
je suis non, mais je suis fan d'ambiance d'équipe. Ah bah, et là, je sens une vraie ambiance d'équipe.
Ah là, vous allez vous régaler. Vous prendre en équipe.
C'est vrai, vous prenez en équipe. Ouais, attends, j'ai même pas fait mes preuves. J'ai l'impression d'être le gars qui arrive dans Rasta Rocket en dernier.
Alors, vous êtes à l'affiche d'un film qui s'appelle La Monnaie de leur pièce, un film d'Anne Leni. Alex Vizorek va nous en parler.
Je fais le pitch ou vous faites le pitch?
Ah non, faites le pitch, Charles.
Alors, le résumé, donc.
Ouais, hein. Donc le résumé, oui. Jacques Toubon est avec nous. Donc on a une fratrie, Paul, Nicolas et Charlotte, qui pensent qu'ils vont hériter de la riche tante Bertie, jouée par Anémone. Ouais. Et puis elle décède, et puis l'argent va pas tout à fait où on pense, va à la cousine.
Ouais.
Cousine que vous maltraitiez quand vous étiez gamin.
Bien sûr, qui n'a pas maltraité sa cousine.
Et voilà.
Physiquement ou sexuellement.
Et donc, mais la cousine a le droit de vous donner un peu d'argent à chacun. C'est elle qui va décider comment va se répartir cet héritage.
Ouais.
Est-ce que quand on sort de ce film, on aime sa famille?
C'est une très bonne question. La question que pose le film, c'est est-ce que l'argent peut tout acheter? Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour une somme un petit peu importante? Et ouais, et puis ça, moi ça m'a rappelé. Enfin, le scénario m'a beaucoup plu à la lecture. J'ai adoré le personnage de Nicolas parce que c'est celui qui gère un petit peu mal son nouveau statut de mec riche, mec qui pète un peu les plombs. Hein, on a tous eu ce pétage de cap. C'est genre la première fois qu'on prend un Uber Berlin, par exemple. Enfin, voilà. Je vais quand même pas prendre un Uberpool, c'est bon, j'en fais 6,27€, j'en ai rien à foutre. J'ai adoré parce que c'est quelqu'un qui, et c'est le message de ce film, c'est que la famille est très importante. Moi, je suis quelqu'un de très famille, et c'est cette fratrie là, les deux frères et la sœur sont tous unis derrière Miu Miu, qui est une personne vraiment adorable.
Qui est la maman.
Qui est à la maman. Mmh. Et on a tous envie de l'aider et d'essayer de s'en sortir. Donc moi, c'est ce qui m'a plu dans ce film. Mais ça pose vraiment la question, est-ce que l'argent achète tout ou pas?
Oui, cette fratrie-là, elle a été éduquée dans, on va dire, une éducation guévariste. C'est-à-dire ouais, qu'il voilà, y a ouais, ce clairement. Mythe du père qui n'est pas là, mais qui était un
qui
rebelle.
Part, qui part combattre avec ouais. le Che et qui voilà. meurt. Et on se retrouve à la rue. Ouais.
Alors que la cousine, elle est plutôt versaillaise.
Ah, carrément. Non, mais Alémone est complètement blindée. C'est ouais. une tante bourgeoise. Ouais. Et voilà. Et nous, on est vraiment les saltimbanques. Elle nous déteste. Et on fait chier. Pardon, excusez-moi. On embête cette cousine qui est incarnée brillamment par Julia Piaton.
Mais qui, elle, est hyper contente de renouer des liens qu'elle n'a jamais eu avec ces trois-là.
Exactement. Ouais, ouais. Parce qu'elle a toujours été. C'est une bourgeoise depuis toujours. Elle a été femme d'eux. Elle a aussi perdu son mari. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle a envie de s'intégrer pour une fois à cette équipe. C'est pour ça que je parlais de notion d'équipe. Elle n'a jamais été intégrée à nous. Et elle se sert de cet argent, de cet héritage pour essayer de se trouver une place. Et donc, on ne sait pas si elle est bien ou mal attentionnée voilà, dans le film. Ça, c'est un truc à découvrir.
Ça, on le dira pas. Je voudrais revenir sur Baptiste Le Caplain, l'humoriste. Parce que moi, je l'ai vu. Baptiste se tape l'affiche. Je crois que c'était à l'actuel Apollo, dans une toute petite salle.
Oui, avec Théâtre du Temple.
Théâtre du Temple à l'époque.
C'était en 2007.
Exactement.
Non, c'était 2009, 2009-2011. J'ai joué un an et demi là-bas.
Ah, voilà. Et on ne se connaissait pas. Et je sortais de la salle et les gens disaient, mais c'est plus drôle que Gad Elmaleh. Je vous assure. Et ouais, effectivement, vous avez une énergie. Non, mais je vous le dis. vous aviez une énergie pas possible. Je vous
que
avais découvert.
La pub avec Gad Elmaleh.
Je vous connaissais pas. Mais donc, sur scène, vous en faites beaucoup. Vous courez, vous êtes extraverti. Comment on passe à au cinéma où il faut en faire beaucoup moins. Et c'est une question qui n'est pas désintéressée de ma part.
Ah bah non,
c'est...
Martin Scorsese, si tu écoutes cette émission.
Bah, le gros avantage, c'est que moi, j'aime... Enfin, la particularité que j'ai dans mon parcours, c'est que j'ai pas pris de cours de théâtre ou de comédie ou d'écriture. J'ai appris en faisant, que ce soit pour mon spectacle ou pour le cinéma. Le gros truc que j'aime foncièrement dans la vie, faire plaisir. Et j'aime quand un réalisateur ou une réalisatrice me confie le rôle. J'aime avoir le super, je suis trop content. Donc je suis vraiment au service du film et j'aime me faire diriger et j'aime encore une fois, je vous le dis, l'esprit de troupe parce que être en one man show c'est sympa, c'est un exutoire extraordinaire, mais on est souvent seul, voilà, surtout en tournée. Voilà, on va pas raconter
les solitaires de
monde. Le wifi, c'est que la réception. Non, c'est chier, ouais. Et donc, je suis très content d'être au service d'un réalisateur. Mais j'ai besoin des deux. L'exutoire sur scène, quand je tourne un film, il n'y a rien de mieux que de jouer sur scène après. J'ai vraiment la sensation d'être un chien fou qui a attendu de sortir toute la journée et il part dans le parc et donc, j'aime me dépenser sur scène. Et j'aime aussi jouer des choses plus nuancées au cinéma, c'est un bonheur incroyable.
It's gone, it's gone, 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 it's all
On écoute des Eels. Today is the day. Today is the day today.
Indeed.
Pour l'instant, c'est Baptiste Le Caplain, notre invité. Baptiste, qu'on peut voir sur grand écran dans La Monnaie de leur pièce, film d'Anne Leni, avec notamment Miu Miu et Anémone. Et on va aborder avec vous ce premier sujet, Baptiste. Le président Macron veut une loi sur les fake news. C'est une annonce qui fait débat, car elle n'est pas sans danger. Et déjà, on en connaît qui vont devoir mettre la clé sous la porte, ceci par exemple.
C'est l'information du jour. Le gouvernement vient d'autoriser le port d'armes pour les faibles. Une mesure mise en place suite à cette étude menée par l'université de Dallas au Texas. Celle-ci démontre l'inefficacité du dialogue et du débat d'idées généralement utilisé par les faibles lorsqu'ils sont par exemple victimes de harcèlement. Les chercheurs ont ainsi démontré qu'en situation de conflit, pointer une arme sur le visage de son agresseur multiplie par 7000 la probabilité de lui faire, je cite, fermer sa gueule.
C'est Pablo Mira dans le Gorafi version télé. C'était une séquence diffusée dans le Grand Journal il y a 2 ans. Baptiste Le Caplain, est-ce que vous avez déjà été confronté ou victime de fake news, vous?
J'ai pas le souvenir. Non, mais il y a souvent des sites. Enfin, non, mais c'est très, très gênant, les phoneurs. Vous savez, quand on va jouer en tournée, on fait des interviews par téléphone. Et on est face à des journalistes qui nous connaissent pas trop. Des fois, on entend même la molette, l'ordi au téléphone. Le mec lit la page Wikipédia en même temps. Ah ouais, donc vous avez... Et quand tu relis l'article après, bon, on t'appelle Jean-Baptiste Caplain, à 37 ans, l'humoriste qui a démarré dans Vivement Dimanche. Le mec a fait un mix de la saison culturelle avec Olivier de Benoît et moi. Donc non, c'était les seuls fake news, mais j'ai jamais eu de gros ratés. Non.
Oui, donc ça veut dire que ça a finalement toujours existé dans une moindre proportion, bien sûr, mais que ça...
Oui. Non, mais la vraie fake news, non, j'ai jamais eu un truc genre... j'ai jamais eu un truc de fou. Non.
D'abord, il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est la notion de fake news. Vous disiez, il y a l'erreur, elle peut être volontaire ou involontaire. Là, visiblement, dans la fake news, il y a une volonté de nuire. Vous, est-ce que vous avez est-ce que vous voyez clairement ce que c'est? Est-ce que vous avez une définition? Quelqu'un vous demande...
J'ai souvent l'association d'idées de... Vous savez, il y a les sites internet qu'on appelle les sites de putaclic. Vous voyez les trucs genre, ceci va vous surprendre, ou cet homme a été avalé par un alligator en 37 secondes. Puis on dit non, c'est pas vrai. Et on clique, et puis on voit un truc pour sarenza.com. On dit bah non, mais c'est vrai, ils ont eu, oh les salauds. Donc je sais jamais la notion, mais les fake news, je sais pas, enfin, avec Donald Trump, il a rendu le mot tellement, tellement courant, tellement banal, qu'on a un peu, on a banalisé ce mot, justement, je trouve.
Et c'est ça, si Marine Le Pen dit, lors d'un débat ou d'un meeting, 80% des étrangers sont des violeurs d'enfants. Est-ce qu'on doit pouvoir la punir, la pénaliser? C'est ça un peu l'idée, j'imagine.
Le projet de loi fake news concerne apparemment la presse.
Que les médias.
Que les médias.
Ouais, voilà. Mais un site créé, un site d'information, même amateur, qui balance des fake news, voilà. Donc là, du coup, le site serait fermé. On ne va pas s'attaquer aux tweets d'un mec qui balance.
Et du coup, si un site d'information relaye cette phrase de Marine Le Pen, on est dans quoi, du coup?
Pour l'instant, on m'a pas encore demandé de rédiger le projet de loi, mais je vais.
C'est très large. Qui nous appelle, parce que là, on est sur
Emmanuel
un petit débat.
Macron,
on sent quand même, c'est un peu à ras-le-bol. Bon, Manuel, t'es pédé ou pas? Bon, il y en a marre, les fake news. Bon, il y en a marre. C'est chier, les fake news, on arrive. Imagine, je cours une pelle. Elle me brosse les dents. Remets-les et viens.
Mais Baptiste Le Caplain, c'est exactement ça, étant donné que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a été victime de cette rumeur. Et donc, notamment la chaîne RT, donc Russia Today France, vient d'ouvrir. Il y a aussi le site Sputnik, qui sont donc aux mains des Russes. Et donc, toute la question est là. Et c'est sans doute les visant eux aussi que ce projet de loi, qu'il en a eu l'idée. Donc,
je pense. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais
non, bien
ça
sûr. Mais bien sûr.
Non, mais
oui, comme quoi, vous visez juste.
Ouais.
On va aborder ce deuxième sujet avec notre invité Baptiste Le Caplain. Sur Facebook, les relations ne sont pas que virtuelles. Si vous êtes ami avec votre conjoint, que faire à l'heure de la séparation? Le ou la bloquer, épier ou instrumentaliser votre profil pour rendre jaloux? Bref, comme si c'était déjà pas assez compliqué.
Tu vois, la dernière fois quand la meuf elle m'a quitté là?
Ouais.
Pour la rendre jalouse, j'ai mis une photo de moi avec ma nouvelle meuf en photo de profil.
Mais t'as pas de nouvelle meuf?
C'est là l'astuce. J'ai mis une photo avec une autre ex.
Mais l'autre ex, elle en pense quoi du coup?
Elle est vénère. Bim, deux pierres d'un coup.
C'est Gringe et Orelsan dans Bloqué, bien sûr. Et c'est un article à lire dans le Cosette qui vient de sortir, un magazine qui a besoin d'un peu d'aide, tiens. Et c'est un article très intéressant, comme d'autres d'ailleurs, dans Cosette, hein, si vous passez par votre marchand de journaux ce week-end.
Ne confondez pas avec Causeur.
Non, alors ça, certainement Cosette. Pas. Certainement pas. Voilà, l'idée, c'est que finalement, tout s'est dématérialisé. On a plein de. On a Facebook, on a Twitter, on a Snapchat, on a nos SMS, etc. Alors finalement, quand on rompt avec quelqu'un, en amitié ou en amour, même si c'est dématérialisé, est-ce que c'est pas plus difficile de... Bah de c'est presque plus dur que de se partager les petites cuillères et les assiettes, non ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Bah non, mais pour l'avoir vécu un temps, c'est assez horrible. Surtout, on a la tentation d'aller regarder. Tiens, qu'est-ce qu'a posté l'autre, la radasse là ? Ah, ça super ! Ah bon, on fait une raclette ? Bah, apparemment, ça se passe bien. Mais le pire truc que j'ai fait, ça j'avoue, c'était des nuits de solitude en tournée. Encore une fois, on revient à la tournée.
Ah, il y avait du wifi à l'hôtel.
Ouais, c'était horrible, mais je l'ai vraiment fait. Et c'est WhatsApp qui offre ça. C'est d'aller sur le numéro de téléphone donc de son ex et de voir quand elle est en ligne ou pas. Et genre, elle était en ligne à 2h33. Ah bah tiens. Ah, voilà. Et quand on voit qu'elle est en ligne, on se dit putain, elle est en train d'envoyer un message. Là. Elle est en train d'envoyer un message à quelqu'un. Elle part en ligne. Elle dit ah d'accord, ok. Donc t'envoies des textos. À qui t'envoies des textos de 2h37 à 5h22 ? Un japonais ? Je ne crois pas. Non. Non, ça c'est horrible, ça j'avoue, je l'ai fait beaucoup ça.
Un témoignage plein de souffrance.
Merci. C'est vrai, vous voyez, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est un article qui s'appelle Largue-moi si tu peux. Il y a notamment un exemple d'un couple qui s'est séparé. Il s'était inscrit sur Airbnb.
Ça, je l'ai lu, c'est horrible.
Ah, voilà. Et donc maintenant, quand il y en a un des deux qui réserve un appart, l'autre reçoit le mail.
Oh non.
Si, je vous promets. Et donc, il y a un psychologue spécialisé dans le numérique qui dit que se déconnecter fait partie du deuil. Donc, c'est un article très intéressant donc à lire dans Cosette.
C'est un vrai truc très compliqué. Et là, le truc qui arrive, là, ils en parlent dans l'article, c'est les souvenirs de Facebook.
Ouais,
dis donc, Coco, ça fait 9 ans que t'es amie avec Adeline. Bah, on n'est plus ensemble. Bah, fêtez cette amitié. Super.
C'est exactement
c'est
ça.
Horrible, ce truc.
Et Baptiste Le Caplin. Et en face de vous, il y a Djoubaka, notre programmateur musical et également chroniqueur de Par Jupiter, Djoub.
Bah ouais, bah aujourd'hui, c'est pas de la fake news. Comme tout le monde le sait à cette table, une carrière musicale n'est pas une ligne droite, hein, comme dans tous les métiers artistiques, mon pauvre Alex. L'idée de durée est une équation qui fait pas bon ménage avec la vie, quoi. Donc certains ont des trajectoires avec des disparitions hein, qui ressemblent à des abysses et qui reviennent toquer à notre porte, hein, comme ça, si de rien n'était. Et au début des années 60, il y a un garçon qui s'appelle Boubacar Traoré, qui est une sorte de dieu du twist malien. Il célèbre dans ses chansons en fait l'indépendance toute neuve de son pays et fait swinguer vraiment l'esprit, la culture mandingue à l'aide de sa guitare électrique toute neuve. Et c'est vraiment l'époque de Mali Twist. Ça dure un petit moment, puis en 68, il y a un coup d'État au Mali, et les militaires prennent le pouvoir, exit Boubacar Traoré, qui retourne dans son village, les poches vides, puisque malgré ses succès, en fait, il ne touche aucun droit, ce qui vous arrivera pas, Alex, sur ses chansons.
Je suis vigilant.
Oui, et il devient ouvrier agricole, et se fait complètement oublier. Et presque 20 ans plus tard, en fait, il y a une télé qui débarque dans son village, et la télé nationale malienne le redécouvre, alors que tout le monde le croyait mort depuis un bon moment. Et quand je dis ça, c'est une vérité, c'est pas une fake news.
Mais disons que dans le village, l'électricité pour la guitare, c'était pas...
Pas terrible, quoi, voilà. Donc, pour beaucoup, en fait,
Boubacar... Dans les gares, il y avait un mec qui pédalait à côté.
C'est ça. Et pour beaucoup, en fait, Boubacar Traoré, c'était quelqu'un qui était mort et enterré dans le sens le plus strict du terme, alors que cette télé, en fait, rappelle à tout le monde qu'il était là 30 ans plus tôt. Et puis, re-succès, et puis l'amour de sa vie meurt. Anéanti, il quitte le Mali, devient ouvrier dans le bâtiment à Paris. Ça se trouve, il a retapé votre baraque. Il vit à Montreuil. Il joue pour ses compagnons au foyer. Il envoie de l'argent à ses enfants. Et il raconte de cette période que tu peux être un roi chez toi, mais dès que tu es immigré, tu es vraiment n'importe qui. Mais bon, la chance quand même des fois. Cette réapparition en fait à la télé malienne n'a pas échappé à un producteur anglais qui va le retrouver et le remettre sur le chemin des studios et des concerts. Et en fait, il enregistre en 1990... 30 ans après ses débuts, son premier disque. Et donc, il va se balader après en Europe, aux USA. Et il y a 7 ans, il a rejoint un label, Blues Africa, qui va lui permettre de faire des connexions artistiques, des rencontres. Et dans son dernier album, qui s'appelle Dunia Tabolo, le propos de Boubacar Traoré, c'est de faire le lien entre le blues malien africain, dont il est sans conteste hein, quand même un des créateurs, et celui de son cousin américain. Donc, tout le groupe se casse comme ça à Lafayette, en Louisiane, voir de quel limon est fait le fleuve Mississippi. Et l'histoire de la musique africaine et le blues ont tellement de points communs, outre la mémoire de l'esclavage, il y a chez Boubacar Traoré quand même ce rythme cette voix plaintive, traînante, qui sonne vraiment comme un bluesman des années 30 et 40. Et alors ce disque, il sonne cajun africain, mais surtout blues, on le doit à un harmoniciste français qui bosse avec lui, il s'appelle Vincent Bûcher, et qui bosse très très bien, et qui amène vraiment un univers complètement différent. Et puis, ce disque de Boubacar Traoré a pour titre Dounia Tabolo. Alors on pourrait le traduire de la façon suivante, on vit, on meurt, tel va le monde, un éternel recommencement. Et ça sonne en fait vraiment comme ce début traditionnel qu'on a dans le blues, When I wake up this morning, quand je me suis levé ce matin, ma galère a commencé. Et cette phrase musicale, que l'on répète indéfiniment, comme un mantra en fait, nous éloigne a priori du pire. Et ben c'est un cycle infernal qui semble échapper aujourd'hui à Boubacar Traoré, qui vit la plupart du temps dans sa maison sur les hauteurs de Bamako, cultivant son jardin, élevant ses chèvres. Et le soir, il prend sa guitare.
C'est un vrai bluesman, quoi.
Ah, à fond. Il prend la guitare pour ses amis, pour placer des petites choses, pour parler des petites choses de la journée qui viennent de se passer. Et là, on écoute une nouvelle version de « Je chanterai pour toi ».
Je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi.
C'est Boubacar Traoré et son histoire extraordinaire que vient de nous raconter Djoubaka. Merci Djoub.
Ouais.
On peut réécouter sur franceinter.fr parce que peut-être que vous nous rejoignez seulement maintenant et vous avez raté l'histoire de cette chanson et de ce chanteur, Boubacar Traoré. Et comme on nous fait pas chier, on se contente de joie simple, dont celle de Guillaume
Belle Maurice. Transition. Moi, je vais vous parler des fake news aujourd'hui, puisque Macron est parti en guerre contre ces fausses informations qui circulent partout, jusque sur notre site internet, d'ailleurs, où j'ai pu voir pas plus tard qu'il y a une heure, Djoubaka, programmateur musical. Et il y a des gens pour le croire, c'est ça qui est dingue, alors qu'il faut quand même pas une grosse enquête pour savoir que c'est le dealer d'André Manoukian. Il faut se méfier de tout ça, des fake news. Il y en a partout. Heureusement, je le dis quand même, il y a des journalistes qui bossent sur BFM TV, par exemple, quand ils disent il y a des otages dans la chambre froide, c'est vrai, c'est vérifié. S'il y a des djihadistes qui nous écoutent, on peut faire confiance à les mecs qui bossent. Mais c'est parfois, c'est vrai que c'est compliqué. C'est parfois plus compliqué que ça. Il y a des fake news diffusées sur BFM, mais pas par les journalistes. Écoutez, par exemple, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement.
Ce gouvernement ne fait pas des cadeaux aux riches. Ce gouvernement permet de mettre l'argent dans nos entreprises pour y créer des emplois.
Voilà, donc là c'est grotesque. Bon, on s'en aperçoit parce que c'est limite le Gorafi, c'est complètement con, c'est pour rigoler. Mais des fois c'est plus subtil. Alors comment les Français font pour s'en sortir? Ben, je suis allé les voir ce matin, les Français. Alors est-ce qu'ils s'y connaissent en fake news?
Oui, la fake news, oui, je connais. Fake, qu'on appelle musique.
Ah, la funk news.
Oui, ça va.
C'est-à-dire, on fait des journaux d'information, mais sur du funk.
Oui, c'est bien.
Alors, oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas mal, on n'y avait pas pensé.
Enfin, une bonne idée, quoi.
Voilà.
Une idée de chronique pour Joe Bacchus. Voilà.
Si Marc Fauvel nous écoute, ben voilà, pour ce journal du matin. Ou Patrick Cohen, hein, pour remonter les audiences sur Europe 1. Même du lap dance news, hein, au point où ils en sont. Mais c'est vrai que la funk news, on n'y avait pas pensé. C'est pour ça que je vais voir les gens aussi, hein. Ça s'appelle l'intelligence collective. Alors, intelligence collective toujours. Comment ce monsieur s'informe?
C'est de pire en pire.
Comment vous vous informez?
Les journalistes sont de plus en plus mauvais.
Ah, vous trouvez?
Oui, tout à fait. Il fut dans le temps où il y avait quelques grands journalistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Alors, par exemple?
Il y avait El Kabash, il y avait les Duhamel.
Ah, oh, c'est vrai, mais qu'est-ce qui nous manque, hein? Hein, bon, si t'allumes pas la télé, il te manque, hein, parce que sinon ils sont toujours dedans à baver. Et quand je dis baver, c'est pas une métaphore, hein, d'ailleurs. Mais on les aime, hein, on a tous en mémoire les enquêtes de Duhamel et El Kabash, hein, toutes leurs révélations, l'intoxication alimentaire au café de Flore en 62, c'est eux, hein, quand même, qui ont révélé l'affaire. L'œuf Mayo Gate, hein, on s'en souvient tous. J'espère qu'ils vont rester longtemps. Alors, voyons voir avec un autre citoyen face à l'information.
Bah, j'essaye de tout relativiser quand même, de toute manière. Et puis bon, je veux dire, j'ai le côté un petit peu comme ça, Thomas. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous croyez, qu'est-ce
bon,
que vous voyez?
Mais bon, c'est mon avis à moi, personnel. Hein.
C'est-à-dire, vous croyez pas les microbes, par exemple, puisque vous les voyez pas?
Oui, mais alors là, c'est une piège à con, là, quand on me pose une question comme ça.
Là, il est lucide, lui. C'est le bon réflexe. Le bon réflexe, je le laisse dialoguer avec ses microbes, en rappelant quand même que saint Thomas est mort en se cognant dans une véranda, hein, quand même, parce qu'il l'avait pas vu, il y croyait pas. Alors, après, faudra vérifier quand même. Je peux être en soi de mon info.
Jean Lebrun s'assure. Ouais.
Alors après, c'est plus compliqué. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas non plus, à propos.
Moi, je trouve que quand c'est trop spectaculaire et quand c'est trop, c'est forcément faux.
Est-ce que la religion, c'est pas une fake news énorme, finalement?
C'est très important d'avoir de la religion, qu'elle soit catholique, musulmane, chrétienne, juive, ce que vous voulez. Mais c'est nécessaire, c'est des dogmes de vie, ça permet aux gens de ne pas être des animaux sauvages.
Ah oui, et on salue tous les athées qui nous écoutent. Hein. Que ce soit évidemment des zèbres, hein, des tigres ou des phacochères. Et moi, je suis rassuré parce que quand je voyais le jour du Seigneur, hein, le dimanche matin sur France 2, je me disais, tiens, ma redevance finance des conneries. Puis après, je me suis rappelé que ça finançait aussi notre émission, donc j'ai relativisé. Allez, continuons à décoder l'actu, les fake news et tout ça, toujours grâce à l'intelligence collective.
C'est toujours pareil, avec toutes sortes éventuellement d'informations qu'on a à travers le monde. Est-ce que toutes ces informations-là, elles sont déjà vérifiées à la base?
Comment vous faites-vous pour faire le tri entre le vrai et le faux?
Moi, c'est au feeling.
Au feeling?
Je le sens.
C'est vrai?
Je sens quand ça peut aller loin ou pas aller loin.
Ah, alors ça, on conseille. Le feeling, très bonne méthode pour décoder les fake news. Et moi, ça, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup de l'instinct quand j'interroge des gens dans la rue. Puis là, je me suis dit, tiens, je sens que j'ai affaire à un expert. C'est un gars qui s'informe au feeling, ça m'intéresse. Alors, je l'ai lancé sur quand même la plus grosse usine à fake news du moment, le réchauffement climatique.
Il faudrait vraiment que ça soit fondé. Alors, on nous dit, on va retirer telle et telle voiture et ainsi de suite. Vous allez en ce moment à la montagne avec tous les feux de cheminée en feu de bois et tout. L'air est toxique et ainsi de suite. Alors donc, en fin de compte, ça existe depuis la nuit des temps.
Là, instinctivement, vous pensez qu'il y a une arnaque?
Ah oui. C'est ça, la science.
Oui, vous pensez que c'est ça, la science?
Oui, c'est ça, la science. La science, c'est d'essayer de convaincre les autres que ce qu'ils ont fait, c'est bien.
Ah oui, vous pensez que c'est ça, la science?
Oui, c'est la science infuse, hein, un peu.
Voilà, c'est la science diffuse, même.
Oui, c'est diffusé.
Oui, c'est pas mal diffusé, hein, c'est même la science infusée, hein, si on veut pas par là. Infusée dans le calva, essentiellement. Alors, on souhaite bon courage, quand même, hein, pour conclure à Manu Macron pour sa proposition de loi qui existe, hein, d'ailleurs, déjà depuis 1881. Comme quoi, les coups de com' à la con, on en a encore pour 4 ans et demi, et ça, c'est pas une fake news.
Et il est l'heure de changer de partenaire, car Alex, pendant les florilèges, vous savez, maintenant on délivre des CDI de chantier d'une demi-heure.
Voilà, c'est ça.
Et donc, le prochain, c'est donc...
C'est Checky Cario.
parce que voilà, il y a une méprise à un moment.
Bonjour Chico Carrier, vous êtes donc le sosie officiel de Checky Carrillo, qui n'en fout pas une, donc c'est vous qui faites tous les films.
C'est moi qui fais tout, oui. Bah, comme
toujours, il était temps que la France le sache. Voilà. Checky Carrillo, qu'on peut voir dans Belle et Sébastien, le troisième volet, réalisé par Clovis Cornillac, donc la troisième adaptation des romans de Cécile Aubry. Checky Carrillo, vous jouez le grand-père, vous avez joué beaucoup de rôles de méchants et de salopards. Ici, vous êtes le très gentil dans un film qui s'adresse à tout le monde et donc les enfants aussi.
C'est que le chien qui est plus gentil que vous.
C'est vrai. Et dis donc, la figure de la bonté incarnée, le grand-père de Sébastien.
Un peu grincheux, un peu...
Il y avait quand même ça.
Oui, il est quand même grincheux, il est taiseux, mais c'est vrai, il a un cœur énorme, mais il sait faire la leçon, il est capable d'entendre la maturité d'un enfant. Parce que c'est vrai, en fait, j'ai fini par me dire dans ma vie que les plus jeunes sont plus vieux que nous, dans le sens où ils ont notre histoire plus leur vie. Donc on a beaucoup à apprendre de plus jeunes que soi. Donc c'est César, en fait, dans ces trois opus, il fait la leçon à chaque fois de ce petit garçon, Sébastien. Voilà, c'est un petit peu le message de Cécile Aubry dans Belle et Sébastien.
Est-ce que c'est votre premier film, je dirais presque, enfin, pour toute la famille, mais y compris les enfants? On dirait aussi pour les enfants, il y a des choses qui
J'avais
changent.
J'avais fait un très beau film il y a très longtemps qui s'appelle Babel, qui était très drôle, qui est un film complètement fou, réalisé par Gérard Pulicino, qui a été vu dans le monde entier, sauf en France.
C'est pour ça. Et qui s'adressait aussi à tous, comme ça.
Ouais, c'était énorme. En plus, le personnage se transformait en Babel, il devenait horrible. Enfin voilà, c'était complètement délirant.
Est-ce que ça change quelque chose dans le jeu? Est-ce qu'on se pose plus de questions? Est-ce qu'on doit être absolument limpide?
Non, je pense que ça, c'est le problème du metteur en scène quand il se pose la question. Mais, ou des scénaristes. Je pense pas. Bon, évidemment, peut-être qu'on fera un petit peu plus attention à son langage, on va dire, peut-être, je sais pas. Non, je me pose pas la question en réalité.
Et votre plaisir?
Moi, je joue toujours pour les enfants.
Ça, c'est vrai.
Votre façon de gérer la carrière, justement, sur ces deux pôles, c'est-à-dire le cinéma plus indépendant, le théâtre, prendre des risques, et puis avoir quand même des films qui marquent une génération, c'est comme ça que vous le gérez? Vous choisissez comme ça en vous disant ça, ce sera un film populaire, et puis parfois...
Voilà, c'est vrai, ça fait partie. Moi, je me suis jamais enfermé dans une famille. Quelquefois, je me disais, j'aurais bien aimé quand même faire partie de cette famille. Mais en fait, ma nature fait que, j'ai pour habitude de dire que j'aime bien me promener sur les grands boulevards, aller me promener dans les rues à côté, rentrer, puis visiter derrière un Porsche. Donc, ce qui fait que j'ai eu la chance, en réalité, de faire des films indépendants, travailler en Australie, en Argentine, en Thaïlande, partout à travers le monde. Et puis faire des gros, des petits, des moyens. Faire du théâtre, faire de la musique, c'est ma passion. Voilà,
et puis tourner dans les Alpes, j'imagine.
Oui, c'est grâce à Nicolas Vanier qui a insisté et qui a voulu faire découvrir cette région qui est exceptionnelle.
Clovis Cornillac réalise, dirigé par un camarade. Est-ce que c'est
un camarade?
Un camarade de jeu, un acteur qui a. C'est son deuxième film, si je me trompe.
Oui, c'est son deuxième film. Il a du talent. C'est un jeune metteur en scène prometteur. Qui a la chance d'avoir entre les mains cette franchise, comme on dit, et qui a réussi avec la proposition des deux scénaristes. De donner au film cet aspect un peu conte, histoire de... de fable, quoi, voilà. Avec le méchant.
Le méchant habillé tout en noir avec son panzer allemand.
Les comédiens disent souvent que ce qui est difficile, c'est de jouer avec des animaux ou avec des enfants. Ici, il y a les deux. Est-ce que c'était vraiment doublement compliqué, du coup?
Non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, parce que je trouve que c'est plutôt une chance, parce que ça nous oblige à être encore plus réels, en fait.
Et instinctifs.
Il faut être spontané et se laisser habiter et traverser par ce qu'on a en face de soi et leur Ouais.
Ici, Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle à des chiots, parce que c'est le troisième volet de Belle et Sébastien, réalisé par Clovis Cornillac. Oui. Et c'était Tchéky Carillo qui est en notre compagnie jusqu'à 18h. On va aborder ce premier sujet avec vous, Tchéky. La France a des mathématiciens de renommée internationale, mais sur les bancs de l'école, les élèves gisent au fond des classements. C'est des quiches en maths. Alors, celui qui peut réduire peut-être ce fossé, c'est Cédric Villani, le éminent matheux, député aussi, La République en Marche, qui a donc le pouvoir de déposer des propositions, il l'a fait, d'essayer de trouver des solutions à cette équation. Voici d'ailleurs un extrait de sa méthode pédagogique.
Alors, si 100 te donne 40, 150 te donne X et X sont qu'on cherche.
Oui,
donc,
oui. Et donc, on doit faire une règle de 3 qui est
Christophe, 100 sur X ouais, égale 150 sur 40.
Mais non, c'est pas du tout ça la règle de 3. Concentre-toi un peu.
Bon, vas-y. 100 sur X,
oui.
150 sur 40, égale. Hein,
oui.
Voilà.
Et donc?
Et donc,
Oui.
Je sais pas.
Il sait pas. Comment ça, tu sais pas? X égale combien? Ben, c'est X qu'on cherche.
Un extrait de la série de France 2, fais pas ci, fais pas ça. Tchéky Carillo, quel souvenir vous avez, vous, de vos cours de maths? Est-ce que vous étiez plus ou moins bon? Vous avez un plus ou moins bon souvenir ou c'était une tannée?
Le souvenir des cours, je me rappelle que ma mère m'a appris à compter avec des sucres.
C'est la méthode de Cédric Villani. Il dit
qu'il faut que les élèves touchent pour
que ça devienne un raisonnement. Oui. Bon, s'ils fondent, c'est mort.
Surtout, vous appliquez le truc de votre mère, Villani. Votre mère aurait pu être députée en marche, pardon.
Mais non, mais c'est vrai.
On ne peut pas apprendre sous la pluie. Quoi.
On ne peut pas, c'est ça. Quand il pleut, quand il y a des fuites. Donc voilà, avec les sucres. J'ai aimé ça, moi, j'aime beaucoup, ouais, en fait, j'aime les maths.
D'ailleurs,
il y a un livre super que j'ai lu qui s'appelle, attendez, je vais vous le dire, je l'ai noté.
Ah oui, prenez votre temps, d'ailleurs, Tchéky Carillo, j'ai lu dans votre bio que vous avez failli vous embarquer.
Ça s'appelle De la préhistoire, le grand roman des maths, De la préhistoire à nos jours. C'est super, de Michael Launay, chez Flammarion. Et il raconte comment les maths sont nées. En fait, depuis des millénaires, les maths se mettent en place et petit à petit, d'où l'idée de toucher, que les choses soient concrètes pour petit à petit arriver vers l'abstraction.
C'est né comment? On commence avec quoi?
Il faut d'abord commencer à compter les moutons, il faut... mesurer les terrains, il faut savoir combien d'esclaves t'as, enfin bon, tu vois, des trucs comme ça.
Comptez pas trop les moutons, parce que sinon,
Génial, ce bouquin. Et effectivement, il faut être pragmatique et puis avoir envie d'apprendre, parce que c'est vrai que les profs, souvent, ils ont l'air ils s'énervent souvent quand on comprend pas.
Mais peut-être que si les professeurs racontaient d'abord cette histoire des mathématiques, résumaient vulgariser ce bouquin dont vous nous parlez,
génial,
on verrait un peu plus clair. J'ai lu que vous avez failli vous embarquer dans des études de comptabilité-gestion.
J'ai pu me préparer à l'expertise comptable. Mais d'ailleurs, les maths deviennent intéressantes à partir du moment où elles sont appliquées, où on comprend pourquoi on les fait. En économie, on a besoin des mathématiques pour pouvoir comprendre. Comprendre ce qui se passe dans un pays. Donc voilà, il faut les appliquer. Quand on fait des analyses, il faut les appliquer.
Et c'est vrai que quand on se rappelle de nos cours de maths, on n'avait pas forcément le sens, la finalité de la chose.
Oui, c'est juste mal enseigné, il n'y a pas d'aspect ludique.
Quand on veut compter toutes les femmes de sa vie, tout ça, par exemple,
on met des bâtons.
Et puis les maths, est-ce que ça sert un petit peu en ce moment à trier les élèves dans les écoles entre les bons, les moins bons? Vous rappelez-vous si vous étiez dans les bons, que les maths étaient un peu sélectifs?
Moi, j'étais pas bon, j'étais toujours près du radiateur.
Il y avait déjà l'artiste.
Il y avait l'artiste qui pointe.
Vous dites les artistes sont opposés aux chiffres. C'est pas vrai, parce que la musique, c'est les maths. Les vers, c'est les maths.
Oui, mais c'est enseigné à l'école, c'est comme ça qu'on nous l'enseigne.
On n'est pas l'un ou l'autre.
Ça devrait pas. Mais c'est bien ça qu'on nous met dans la tête.
Et puis il y a des artistes qui s'intéressent aux maths. Jean-Claude Van Damme, pardon. Excellent exemple. Donc j'ai pas de raison. Cédric Villani est un artiste en lui-même. Déjà, il est styliste. Donc bref, on s'égare sur ce sujet. Tchéky Carillo à vos côtés. Et pour les auditeurs, Juliette Arnaud est venue aujourd'hui.
Oui, alors, le roman d'aujourd'hui s'appelle « À malin, malin et demi », ce titre est nul, je vous l'accorde. Et il est écrit par Richard Russo. Alors, le point de départ de cette histoire, c'est un homme en deuil de sa femme adorée. Un jour, il rentre chez lui et pouf, sa femme est morte. Elle a fait une chute mortelle dans l'escalier. Jusque-là, ça va. Non, je ne fais pas de mauvais esprit délibérément. C'est juste que si on s'arrête là, le gars est fou de chagrin, mais c'est propre. Sauf qu'en plus, au moment où il trouve sa femme morte dans les escaliers, il trouve aussi, en bas de ce maudit escalier, des valises faites et un mot de sa femme, trépassée, pour lui dire qu'elle le quitte, qu'elle part avec un autre, qu'elle espère qu'il n'est pas trop trop fâché, merci, bisous, merci. Drama. Ravagé de chagrin, le type, et en colère, et sans réponse, la pire des combinaisons. D'autant que l'endeuillé, le monsieur, il trouve ensuite, dans les affaires de sa femme morte et infidèle, une télécommande d'un garage qui n'est pas la télécommande de leur garage. Alors il déambule en scred dans sa petite ville, en bipant au hasard, pour trouver le type avec qui sa femme envisageait de se barrer. Sauf que le gars en question, il est chef de la police de la petite ville en question, qui est pleine de portes de garage automatiques. Situation extrêmement gênante. Comme vous l'avez compris, Un malin, malin et demi, c'est un livre cocasse, c'est un livre touffu, avec moult personnages et intrigues, acrobatiques aussi. Toute l'intrigue se passe en 2 jours et ça fait plus de 600 pages. Mais évidemment, il y a des flashbacks pour expliquer, raconter les différents protagonistes. Surtout et encore plus, c'est un livre qui est bon. Checky. C'est un livre qui est bon pour le moral parce que c'est un livre qui a l'art de raconter une histoire et des histoires. T'es tellement dans l'histoire qu'à la fin, t'es triste comme si tu quittais des potes. Alors, quels potes? Eh ben, des couillons. Mais pas tant que ça. Des maladroits, en tout cas. Et un vrai méchant, un tabasseur de gonzesses. Des cols bleus, en tout cas. Tous ceux qui sont dans l'Amérique de Trump avant Trump, juste avant Trump, dans l'État de New York, dans une petite ville un peu merdique, loin de ses heures de gloire, en déroute économique totale, pas très loin de la catastrophe écologique, une middle class d'hommes qui passent beaucoup de temps au bar. C'est un livre bon parce qu'il contient de la bonté, celle de Richard Russo, quand il nous raconte ces hommes blancs, mais pas que, vieillissants. C'est pas des glorieux, c'est pas des héroïques. Et c'est ça la grande œuvre de Russo, c'est te réconcilier avec une génération, la sienne, c'est un monsieur qui est né en 47-50, celle de mon père, celle de son père à lui aussi, avec la loose quotidienne des petits, des sans-grades, des à la ramasse, des hommes avec un petit H. Ainsi, Karl, l'ex entrepreneur à succès, à présent fauché et avec des problèmes d'érection, qui retrouve la vie à cet endroit de son slip en regardant Audrey Hepburn dans Charade. J'aime autant vous dire que dans Audrey Hepburn dans Charade, elle ne va pas beaucoup plus loin en termes d'effeuillage que d'enlever un gant. Et là, tu te mets à aimer Karl et croyez-moi, c'était pas gagné. Et le chef de la police, au fait, comment il s'en sort? Eh ben, c'est comme sur Facebook ou dans ma vie à moi, statut, c'est compliqué. Parce que le chef de la police, il va devoir retrouver la télécommande perdue entre-temps. Et pour ça, s'allie avec un vieux type, ancien ouvrier de chantier, Sully, et son chien, Rob, charmant corneau, mais affligé d'une pathologie qui guette Alex Vizorek, un parasite génital qui le conduit à se mordiller l'endroit en question. Et vu que le chef de la police a perdu la dite télécommande dans la tombe encore ouverte d'un juge au moment de son enterrement, Sully va faire à son chien, Rob, la proposition suivante. Tu veux rester ici à grignoter la bite ou aller déterrer un juge? Ce que je peux aimer les hommes qui disent des phrases comme ça. Et les femmes, quand elles disent aux hommes qui disent des phrases comme ça, la phrase suivante, t'as pas besoin d'être dur sous prétexte que le monde l'est. Merci, bisous, merci.
Oh, Juliette Arnaud, rappelez-nous les références de cet ouvrage.
À malin, malin et demi de Richard Russo.
Et le titre anglais, c'est quoi?
Ah ouais, c'est vrai, le titre anglais.
Ah ouais, regardez un peu.
Eh ben, je vais
donc,
le...
ça se passe en deux
Mais
jours.
Il est tellement mieux.
Allez-y.
Everybody's fool. Mm-hmm. Être le crétin de tout le monde.
Mm. Ah oui.
600 c'est pages, bien. Ça ouais, se passe ouais. Sur 2 jours. Vous l'avez lu en combien de temps, Juliette?
Alors, vous vous souvenez, je l'avais perdu.
Donc oui,
il a fallu que je le rachète. Et vous saviez où j'avais perdu?
Non.
Sous mon lit.
Voilà, oh, d'accord, très bien. On se raconte.
Ça passe des trucs sous son lit.
Ouais, bien sûr. Allez, on va passer à autre chose. Il est 17h52.
La question, c'est comment vous l'avez retrouvé?
Oui. Tu vois, on peut en faire le sujet de
quoi? J'ai fait le ménage, Alex.
Ah, c'est ça.
Bon, Checky Carillo, on n'est pas obligé de tout savoir non plus. Donc, on va passer à cet autre sujet avec Checky. Profitez de sa présence. C'est le troisième sujet, c'est Johnny qui ne laisse rien à Laura, mais qui va peut-être la pousser à chanter elle-même. Ceci.
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales.
Ah oui. Tout ce qui reste.
Je lance un appel. Nana Mouskouri est venue dans toutes les émissions de France Inter, sauf chez nous. Nana, viens.
Nana Mouskouri, l'amour en héritage. Checky Carillo, alors ça, c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle dans les bureaux, dans les cafés, dans le métro. Est-ce que vous avez réussi à échapper à cette discussion jusqu'à aujourd'hui ? Vous vous aviez entendu parler, vous en avez parlé avec votre entourage ?
J'en ai entendu parler, effectivement. Oui, bien sûr, on ne peut pas y échapper, c'est vrai. Ouais. Quoi dire à propos de ça ? Je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, mais, enfin, a priori, Laetitia apparaît plutôt comme quelqu'un de sympathique et de gentil et d'aimante et d'ouverte. Je me dis que c'est elle qui a les cartes entre les mains. J'avais pas compris que ça venait d'elle, toutes ces choses-là. Enfin, elle devrait normalement résoudre les choses. Ça me semblerait normal qu'elle puisse dire, mais non, c'est normal qu'ils reçoivent leur part. Je suis un peu sidéré, je dois dire.
Oui, oui, mais je pense qu'on l'est tous, hein. C'est surtout après le
pas tous, j'ai l'impression. On n'est pas tous surpris.
Mais, oui, bon.
Elle dit un truc, Laura, dans le communiqué. Elle dit, dans notre famille, tout se passe ouvertement. C'est-à-dire que tout se sait depuis que Johnny et Sylvie se sont mariés. Tout ce qui se passe chez Léa Hallyday est discussion. Vous êtes un peu l'anti-ça. Vous êtes très, très discret sur ce qui... Non, mais c'est vrai. Et quel est votre regard sur, justement, cette espèce d'exposition familiale?
Est-ce qu'on peut voir votre testament aussi par la
suite? Oui, je suis en train de le faire. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Je veux dire, moi, je me... Enfin, si vous voulez, j'arrive à un âge où j'ai eu plusieurs vies. Donc, j'ai des enfants. Et donc je me suis dit à un moment donné, il faut que ça soit équitable et que les uns et les autres n'aient pas le sentiment d'avoir été oubliés. Donc je fais en sorte que chacun puisse, et la personne avec qui je vis et qui est la maman de mes enfants aujourd'hui, soit aussi gâté d'une certaine manière.
Et protégé.
Protégé, voilà, c'est ça, protégé. Ça me semble normal. Et en plus, je trouve quand on fait ça, j'ai le sentiment qu'on devient plus. Alors, souvent, on a peur, parce que c'est quand même étrange de se dire, je vais faire mon testament.
Oui, il faut faire la démarche.
Donc, faut faire la démarche, et puis on pense à sa mort. Je trouve que de penser à sa mort, c'est une meilleure façon de vivre. Et donc, finalement, l'idée de préparer son testament, j'ai le sentiment de devenir plus léger. Et j'ai une image qui me revient à l'esprit. Je vous en fais cadeau, si vous permettez. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ouais. J'ai le souvenir, en étant petit, on jouait aux billes à l'époque, et je perdais mes soldats, je perdais mes billes, je gagnais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je gagne. Donc, je me suis entêté, je me suis obstiné, et je me suis mis à gagner des billes. Et j'ai commencé à gagner des billes. Et j'ai gagné des billes. Et mon sac, je rentrais à l'école, je rentrais à la maison, mon sac était de plus en plus lourd. Et je comptais mes billes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'es malade, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et je sentais l'absurdité du truc. Et je revenais avec mon sac de billes qui était de plus en plus lourd à l'école. Et un jour, j'ai pris ce sac de billes et je l'ai jeté du haut de la cour. J'ai tout balancé. Et je me suis senti bien. Et j'ai vu tout le monde courir sur les billes.
On espère.
C'est une magnifique métaphore.
On espère que Bernard Arnault nous écoute.
Et c'était génial.
Magnifique histoire, Chucky Carillo. On va revenir à votre métier de comédien pour terminer.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Vous êtes Manuel Valls. Il fait toutes les émissions possibles. Manuel Valls sur le PAF. On s'y rend tout de suite.
Bienvenue à Des chiffres et des lettres. Manu, c'est encore à vous.
Voyelle.
I.
Consonne.
L.
Voyelle.
A.
Consonne.
S.
Consonne.
Et un M. Très bien. Quelle est votre proposition ?
5 lettres. Islam.
Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Et Monsieur Sarkozy ?
Pas mieux.
Ok.
Bon, je vous laisse. Je suis attendu dans le téléachat.
Alors Manuel, qu'avez-vous à nous vendre aujourd'hui ?
Une magnifique petite ouverture pratiquée dans une porte.
Oh, génial ! Et à quel prix cette superbe serrure ?
Eh non, ce n'est pas une serrure.
Mais alors qu'est-ce que cela peut être ?
Un Judas.
Ah, bien sûr, suis-je bête !
Eh ben oui, sinon vous ne seriez pas au téléachat. Bon, je vous laisse, je suis attendu à 30 millions d'amis.
Bonjour Manuel, de quel animal souhaitez-vous nous parler ?
Vous n'avez pas une petite idée ?
Enfin, je ne sais pas, vous êtes politicien, je dirais le requin.
Pas du tout. Je vais vous parler du chien.
Ah, méfiez-vous, Manuel, le chien est un animal très fidèle.
Ah, merde. Bon, je file à Thalassa.
Ce soir, un reportage exceptionnel.
Et comment ? C'est moi l'invité. Et
nous sommes avec Manuel Valls en direct de la presqu'île d'Evry.
Remontez les filets.
Et on retrouve Manuel avec le produit de la pêche du jour.
Ok, vous me mettez quelques blancs, des whites et des blancos.
Ah bon ? Pourquoi ?
Je préfère le poisson blanc, c'est tout. Si c'est comme ça, je file.
Bienvenue dans le jour du Seigneur. Bonjour mon fils.
Bonjour mon père. Je voulais vous lire un passage de la Bible.
Ah, et nous qui pensions que vous défendiez la laïcité.
Bon, ça dépend des émissions. Allez, 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 c'est l'Évangile selon saint Manuel. Épître 49.3.
Alex, comme nous arrivons presque à la fin de cette émission...
Oui, mais il y a le meilleur moment, Carion.
Ah, c'est-à-dire voilà. Que toute cette semaine, on va avoir...
Toute cette semaine, on va avoir un Frédéric Fromet. J'ai bossé pour trouver les 5 meilleurs.
Vous voulez dire qu'on va avoir un plateau de Fromet?
Oh, bah dites donc.
Excusez-moi.
Les vacances sont nécessaires hein, pour vous. Allez, on écoute la chanson sur le clash entre Benjamin Biolay et Grégoire.
Grégoire et Benjamin Biolay vous souhaitent une bonne année. Plein de chansons où celle éclate qui vous donne la patate. Que l'on reprend à tue-tête et départ la fumette. Youpi, c'est la fête. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre suicide. À part écouter chanter de rockers intrépides. Par exemple, vous infligez à 20h à la télé les vœux d'un premier de cordée. C'est la merde en Corée, en Syrie, en Iran. Partout ça pourrait péter, mais y'a Donald, heureusement. Ainsi que pour nous faire rêver, vous le savez maintenant. Grégoire et Benjamin Biolay, on vous impose de vacciner vos enfants. Vos enfants, le mieux c'est de les noyer. Vos enfants, il est temps. C'est pour leur rendre service, pour ne pas qu'ils finissent sur Instagram ou sur M6, comme Grégoire et Benjamin Biolay. C'est le cinquième couplet, y en a encore 27. C'est du survitaminé, on peut ralentir. Dire peut-être comme le temps de réaliser que l'on détruit la planète et que finalement on s'en fout. Je vous souhaite quand même une bonne année et surtout la santé. La santé, tiens, c'est pas con vu que c'est aussi une prison où on pourrait enfermer au hasard, je dirais, Grégoire et Benjamin Biolay.
Et quand la chanson est finie, Alex,
oh non,
c'est si, qu'il reste à se dire au revoir. Mais c'est pour mieux revenir demain.
Mais avec qui?
Avec Benjamin Biolay.
Oui, ça m'est un peu égal.
Je défaille.
Mais avec qui?
Et Adèle Van Rett.
Ah oui, là par contre je vais venir.
D'accord. Allez, à demain.